Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, tas de punaise ». Est-ce que c'est bien clair ?
Chef, oui, chef !
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
Chef, oui, chef !
Et on dit quoi ce soir ?
Chef, oui, chef !
Dans le rendez-vous sur France Culture, il sera question de Marines, de Bercy, de vétérans, de l'Irak, de fraude et même de Céline. Avec Phil Clay qui signe fin de mission, premier recueil de nouvelles pour cet ex-marine américain de 30 ans, vétéran de l'Irak, 12 nouvelles entre ligne de front et retour au pays, pour une langue crue, drôle, sans illusion et burlesque. 19h30, plateau Infiltration avec Thomas Brunet qui publie Les Initiés, un roman policier à Bercy pour ce romancier journaliste qui avait déjà enquêté sur le ministère de l'économie et des finances. 19h50, la session sera pop ce vendredi et baudelairienne avec le groupe Feu Chatterton, une programmation signée Lucille Como. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, supplément week-end de Benoît Lagan, mais l'on ouvre d'abord par le son du jour de Zoé Sfez.
Vous aviez tout, belle liberté, plein d'emploi.
Nous c'est chômage, violence et sida.
Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger.
Vous avez sali.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
Vous avez fumé pour le son du jour ?
Non, je n'ai pas fumé. D'ailleurs, il est presque du jour, pas tout à fait du jour, ce son. Ce son mélodique, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ? Ce que vous entendez, c'est la nouvelle chanson des Enfoirés. Vous le savez, traditionnellement, la troupe d'artistes sort un hymne repris lors de leur concert et vendu au bénéfice des Restos du Cœur. Cette année, donc, cette chanson, c'est la vie que vous entendiez, écrite par Jean-Jacques Goldman, qui met en scène le conflit des générations, un thème qui pourrait être très intéressant, mais la façon dont il est traité ici semble, de l'avis de tous, être un échec assez monumental. Partagée mercredi sur les réseaux sociaux, la chanson a provoqué la colère. La grande colère de tous les internautes, et en particulier des jeunes internautes.
De tous les internautes, vous êtes sur tous, absolument tous.
À peu près toutes les réactions sur Twitter, en tout cas, étaient négatives. Les jeunes, en particulier, pointent du doigt des paroles qui leur reprochent de fumer, de ne pas se bouger, d'être amers et inactifs. On le sait, c'est absolument faux, Laurent. Cacophonie, malaise, chanson clairement anti-jeune. Depuis mercredi, le compte Twitter des Enfoirés ne cesse de se justifier. Ce n'est pas le sens du message, il est positif. Désolé que vous en ayez une autre interprétation. La chanson se veut être un message d'espoir pour la jeunesse. Le concert des Enfoirés sera quand même diffusé le 13 mars sur TF1. L'album sortira le lendemain, on espère, avec un peu de chance. Les bénéfices des CD et DVD ainsi que celui des concerts sera reversé au Resto du Cœur.
Merci Zoé, on se retrouve lundi pour la suite de ce Journal de la Culture et comme tous les vendredis, le Journal de la Culture se poursuit maintenant avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
On dit chef. Et pour commencer, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et cette semaine, l'actualité de la télévision, c'est la diffusion lundi prochain sur Canal+, d'un très bon téléfilm, Sanctuaire, avec entre autres Jérémy Régnier. Produit par Haut et Court, la société à qui on doit les revenants, Sanctuaire revient sur un sujet rarement traité à la télévision, le terrorisme basque en Espagne et en France au début des années 80. Bande-annonce.
Années 80, le Pays Basque est à feu et à sang.
C'est la première fois qu'un homme politique tombe sous les balles des indépendantistes basques.
Pour mettre fin au conflit, le chef de la lutte armée de Théa et un conseiller de l'Élysée entament des négociations.
Votre statut de réfugié politique est précaire. Si vous ne saisissez pas cette occasion, aujourd'hui, vous perdrez votre sanctuaire.
La vérité, c'est que la France est en train de nous lâcher.
Vous n'aurez jamais l'indépendance par les armes.
La serpiente y el hacha. La stratégie en double juego. Négocier y golpear.
Alors, qui avez-vous contacté cette fois pour parler de Sanctuaire ?
Eh bien, j'ai téléphoné en Espagne à Gorka Landaburu, directeur de l'hebdomadaire Cambio 16. Il s'est rendu sur le tournage de ce film et a vu en avant-première Sanctuaire. Et pour lui, il y aura forcément un avant et un après.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Il y a eu déjà des films du côté basque-espagnol, sur la fuite de Ségovie, de l'ETA, l'attentat de Carrero Blanco, qui était le vice-président de Franco en 1973. Il y a eu des films qui ont été faits, mais disons que c'est le premier film qui est fait sérieusement, qui est très très proche de la réalité, qui nous raconte ce qui s'est passé. Je pense que grâce à Sanctuaire, à ce film, d'autres réalisateurs, qui ne soient pas espagnols, comme dans ce cas-là, place, nous avons un directeur belge, disons, vont pouvoir se faire sur une histoire très importante. N'oublions pas que le théâtre a duré quand même pendant plus de 40 ans sous la dictature et après et en démocratie en Espagne. Donc il y a beaucoup de films qui vont se faire vraisemblablement autour de l'ETA, ce que ça supposait, les victimes, etc. C'est le moment de raconter tout ça parce qu'on a oublié effectivement qu'ici, pendant beaucoup d'années, beaucoup de personnes ont été assassinées, ont été mutilées et menacées par le terrorisme de l'ETA.
C'est Chabi Molien qui a co-scénarisé ce film.
Oui, et pour lui, seule la fiction peut revenir sur un tel sujet, car plus personne ne veut ou ne peut en parler. J'ai demandé à la productrice du téléfilm, donc Kitri Dur-Gosserès, de nous expliquer pour quelles raisons, en particulier, les politiques français ne souhaitent pas parler de ce sujet.
On n'a pas réussi, en tout cas, à avoir des témoignages des hommes politiques qu'on a pu rencontrer, hein, que ce soit Pierre Joxe, que ce soit Robert Badinter, pour parler des plus, on va dire, haut placés. Ce n'est pas un épisode sur lequel il s'exprime. On se dit clairement qu'il y a un malaise, parce que je pense que ça mettait clairement une démocratie face à ces et des hommes politiques de l'époque, face à leurs contradictions, mais vraiment très directement et très brutalement. Et pendant ce temps-là, c'est 30 morts, et puis des gens qui passent, comme vous et moi, dans la rue ou qui sont dans un café et qui prennent une balle.
Alors pour voir Sanctuaire, le film réalisé par Olivier Massé-Depasse, ce sera lundi prochain sur Canal+, en première partie de soirée.
Et on enchaîne, Benoît, avec votre revue de presse Culture Média de la semaine. Et dans la presse, mardi ?
Eh bien, mardi, c'était retour à Radio France sur les pistes d'économie. Mathieu Gallet, le président de Radio France, a accordé un entretien au journaliste Média du Figaro. Et en page saumon, il revient sur le plan d'économie prévu. Il s'est tout d'abord voulu rassurant quant à l'avenir de FIP, en assurant qu'il n'était pas question de toucher à cette pépite et d'évoquer alors parmi les projets le rapprochement des orchestres, la fin de la diffusion de Radio France sur les ondes longues et moyennes, une économie de 15 millions d'euros par an, ou encore l'évolution du cahier des charges en matière de publicité.
Mercredi, c'était reparti.
Oui, à l'occasion du retour en kiosque chaque semaine du magazine satirique Charlie Hebdo, deux sociologues ont étudié pour le quotidien Le Monde les 523 couvertures du magazine entre 2005 et 2015. Et si pour les sociologues Jean-François Mignot et Céline Goffet, les unes ne résument bien évidemment pas le contenu du journal, ils démontrent que 7% d'entre elles concernent la religion, 38 couvertures sur 523 uniquement. Et sur ces 38 unes, seules 7 se sont moquées, je cite, principalement de l'islam.
Et jeudi, c'était Variety.
Eh bien, si l'on en croit le site américain hollywoodien, spécialisé dans l'actualité du cinéma et de la télévision, Variety, Nicolas Cage devrait rejoindre le casting du film Snowden, le prochain film d'Oliver Stone. Le comédien devrait y interpréter le rôle d'un ex-officier des services secrets aux côtés de Joseph Gordon-Levitt, qui interprétera l'ex-agent de la NSA, Edward Snowden. Le film d'Oliver Stone devrait sortir aux États-Unis le 25 décembre.
Et aujourd'hui, pendant que Zoé Sfès dessine des robes de princesse, oui.
Eh bien aujourd'hui.
Des robes de princesse.
Oui, c'est peut-être pour l'anniversaire de Marcel Pagnol, peut-être.
Parce qu'aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport.
Eh bien aujourd'hui, il faudra attendre demain, Laurent, pour célébrer le 120e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol. Une trentaine de manifestations sont d'ailleurs organisées à Aubagne. L'occasion de revenir sur une information relayée cette semaine et que nous avions rapidement évoquée dans ce journal il y a quelques temps. La souscription lancée afin de restaurer les trois films, Marius, Fanny et César. Eh bien, ce serait un véritable succès. Lors d'une conférence de presse organisée cette semaine, Nicolas Pagnol, le petit-fils de l'écrivain-réalisateur, a annoncé que pour pouvoir restaurer dans de bonnes conditions ces trois films, il espérait au moins 50 000 euros pour remettre en état le premier négatif. Or, la souscription a déjà permis de collecter un peu plus de 75 000 euros. Et lors de la projection des premières images restaurées cette semaine, Nicolas Pagnol a annoncé un projet de restauration de 14 films produits et réalisés par son grand-père.
Eh bien, c'est un beau conte de Noël à fond la lettre.
Ah oui, bien longtemps en avance. Mais du coup, ça permettra de réécouter ce journal de la culture sur Internet en podcast pendant au moins 1000 jours, donc d'ici Noël.
Merci, on se retrouve tous lundi, Benoît et Zoé. À lundi, merci.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Marines avec vous, Phil Clay, 30 ans à peine, vous êtes ancien marine. 13 mois de service sur le front irakien, c'était entre 2007 et 2008. Et c'est après votre démobilisation en 2009 que vous commencez à publier des nouvelles dans la presse. Dans la foulée, il y aura un recueil sous le titre Redeployment, qui va rencontrer aux États-Unis un succès phénoménal, lauréat du National Book Award en 2014, désigné par le New York Times comme l'un des 5 meilleurs livres de fiction 2014, et il est traduit aujourd'hui en français aux éditions Gallmeister sous le titre « Fin de mission ». Ce sont 12 nouvelles entre « Ligne de front » et « Retour au pays », avec une langue crue, imagée, drôle, entre désillusion et burlesque. À quel moment, Phil Clay, vous avez écrit votre premier texte à votre retour aux États-Unis ?
I started writing the first story a few months after I got back from Iraq in 2008.
La première nouvelle, je l'ai écrite quelques mois après mon retour d'Irak en 2008. J'ai commencé à écrire cette nouvelle. Il m'a fallu 2 ans et demi pour la terminer. Mais je suis revenu d'Irak avec beaucoup de questions dans ma tête. Des questions sur mon expérience, des questions sur les expériences des gens que j'avais rencontrés, et des questions sur le sens de l'Irak aussi bien à l'étranger qu'aux États-Unis.
Quelle est la première nouvelle que vous ayez écrite ? Quel était le sujet ? Est-ce que c'est celle qui ouvre le recueil ?
Oui, c'est la première du recueil. Fin de mission. La première phrase que j'ai jamais écrite était celle de cette nouvelle qui était « On a tiré sur des chiens ». J'avais rencontré un membre des Marines qui tirait sur des chiens pour les empêcher de dévorer des cadavres. J'en ai rencontré plusieurs par la suite, des Marines comme ça. Et cela m'a semblé être un bon point d'entrée pour parler de l'étrangeté de la guerre. Et j'ai voulu ramener ça aux États-Unis. J'ai voulu ramener le personnage et puis également rapporter l'étrangeté.
Puisque vous parlez de la première nouvelle, quelle est la dernière avec laquelle vous avez voulu finir la dramaturgie de ce recueil de nouvelles ? Qu'est-ce qu'elle raconte au regard de la première ? Phil Clay.
So, both of the stories talk about the act of killing.
Les deux nouvelles portent sur l'acte de tuer.
The last story, it was very important for me to end on.
Pour la dernière nouvelle, il était important que je traite de certains thèmes. Tout d'abord, il s'agit d'une unité d'artillerie qui est impliquée dans l'acte de tuer. C'est une unité qui a une arme qui est opérée par 9 hommes qui tirent sur des cibles qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les cadavres, évidemment. Et le narrateur de cette nouvelle essaye de réfléchir à tout cela. Il se pose la question de sa responsabilité, de son implication, de sa participation, là où commence et là où se termine sa responsabilité. Et la nouvelle se termine lorsque il n'arrive pas à voir la violence à laquelle il a participé. Et ça se termine avec un cadavre américain qui revient à la maison.
Manu Farine.
Pour ces 12 nouvelles, vous avez mis en place un narrateur différent à chaque fois, hein, ce qui vient vraiment rompre avec la tradition généralement autobiographique du récit de guerre ou du récit de vétéran. Pourquoi fallait-il en passer par la fiction et surtout prendre cette distance de narration en multipliant les narrateurs, Phil Clay ?
There's a temptation when you come back from war to...
Lorsqu'on est démobilisé, on est tenter de pontifier et de parler avec autorité de la guerre. Vous savez, moi j'y étais et je peux vous dire ce que c'était que l'Irak, j'y étais. Mais il n'y a pas d'expérience unique s'agissant de l'Irak. Chacun a un point de vue particulier, chacun a un point de vue singulier, parce que chacun a sa propre personnalité, chacun y a une époque différente, a une mission différente, appartient à une unité différente. Par conséquent, je ne voulais pas un seul narrateur qui soit le témoin unique de l'expérience en Irak. Je voulais 12 narrateurs qui se confrontent entre 12 narrateurs, pas forcément en accord sur le sens de cette guerre, parce que je voulais un espace dans lequel pourrait s'immiscer le lecteur, pour que le lecteur ait une relation critique par rapport aux propos prodigués par ces narrateurs.
À la lecture de ce recueil de nouvelles, parce que je sais que vous en avez lu quelques-unes, Thomas Brunet, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement marqué, sachant que vous-même, vous avez été journaliste donc, et avez travaillé sur le terrain au Vietnam ?
Il y a beaucoup de choses dans les nouvelles de Phil Clay qui font écho aux autres conflits qu'il y a pu y avoir, et notamment celui du Vietnam, qui est celui que je connais le mieux. Quand je vois les cibles invisibles, les enfants qui s'approchent et dont on ne sait pas s'ils vont vous offrir des bonbons ou s'ils vont se faire exploser, toute cette problématique du retour à la vie normale, ces soldats qui partent, qui sont souvent un peu naïfs, pleins d'espoir, en tout cas qui croient souvent à la mission qu'on leur a assignée et qui rentrent pleins de doutes philosophiques et existentiels sur ce qu'ils ont fait, mais aussi sur qui les a amenés à faire ça, c'est-à-dire le gouvernement. Moi, j'ai senti beaucoup de sentiments de trahison vis-à-vis du gouvernement, comme si on leur avait menti sur ce qu'ils étaient venus défendre, en fait, qui étaient souvent des guerres aussi très idéologiques sur la défense de la démocratie, des valeurs universelles, etc. Et sur le terrain, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, parfois, j'avais l'impression, à lire les nouvelles de Phil Clay, que je remplaçais Irak ou Afghanistan par Vietnam, je remplaçais Haji par Vichy pour Viet Cong, et j'avais le sentiment de retrouver des témoignages que j'avais moi-même recueillis, en fait.
Est-ce que c'est une lecture que vous comprenez, Phil Clay, justement, que l'on puisse avoir...
Yes, absolutely.
Oui, je comprends bien cette interprétation des choses.
And, you know, the American relationship to veterans...
La relation
is so,
qu'entretient... L'administration américaine à ses anciens combattants est très liée à la façon dont on a traité les anciens du Vietnam à leur retour. Et cela continue à projeter une ombre sur les débats privés et publics sur la guerre et l'interventionnisme américain. Les soldats reviennent avec la tête pleine de questions sur leur gouvernement. Ils sont sceptiques, nouveau scepticisme à la lumière de leur expérience. Et ça, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et c'est vrai pour le Vietnam, évidemment, mais un des grands exemples de ces personnages, c'est dans le livre de Bernanos. Il y a cet ancien combattant qui est sceptique même sur cette notion de justice dans la société, parce qu'il considère que c'est un outil parmi d'autres qu'utilise le pouvoir.
Pour autant, Phil Clay, vous parlez quand même d'une différence dans la réception et le traitement des vétérans par la société civile entre le Vietnam et ce qui s'est passé avec la guerre en Irak. Vous parlez même de l'apathie des civils face aux vétérans. Est-ce que c'est justement parce que là, la guerre concernait trop peu de gens pour que le pays se sente en guerre, ou parce qu'elle a pu paraître plus illégitime encore ?
Vietnam had a draft. So,
il y avait un service militaire à l'époque du Vietnam. Donc les jeunes y étaient envoyés. Et par conséquent, toute la société était impliquée et avait quelque chose à perdre. Les anciens combattants sont revenus. La société a peu ou prou compris que l'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité la guerre et les soldats, parce que nous sommes tous citoyens et tous responsables des guerres dans lesquelles nous sommes engagés, mais en même temps, il n'y avait pas le même engagement par rapport à la guerre. Il y avait des Marines qui savaient que leur vie était en jeu et que cette apathie pourrait donner lieu à des choses terribles, pas simplement pour les soldats américains, mais surtout pour les Irakiens ou pour les Afghans. Et ensuite, ils reviennent vers le pays qui les a envoyés, et puis il n'y a pas de débat sérieux. Et lorsque les anciens combattants retrouvent ça, eh bien, ça les isole, ça les marginalise, et ils se trouvent dans une situation particulièrement étrange.
Phil Clay, vous, avec quelle mythologie vous êtes parti en Irak ?
I don't know. I read a lot.
Je ne sais pas bien. Avant d'aller à la guerre, j'avais beaucoup lu. J'ai lu des livres sur l'Irak. Voyage au bout de la nuit de Céline. David Jones, qui a écrit sur la Première Guerre mondiale. J'ai lu Homer, Tim O'Brien, et Michael Harris, qui a écrit sur le Vietnam, les dépêches.
And then, of course, while I was there, I continued reading. I read Gravity's Rainbow.
En Irak, j'ai continué à lire l'arc-en-ciel de Gravité.
And then you have all these ideas about war.
Et puis, il m'est venu beaucoup d'idées sur la guerre. Et il y a également les expériences au quotidien. Et on essaye de puiser dans ces lectures pour essayer de trouver une logique dans ce que l'on vit. À mon retour aux États-Unis, j'ai commencé à écrire mes propres histoires, mes propres nouvelles, parce que je n'avais pas de récit suffisant, pas de corpus narratif suffisamment étayé pour expliquer le sens de la guerre. J'ai écrit pendant 4 ans et demi, et puis dans ma tête, bien la confusion n'a fait que croître et embellir.
Manu.
Est-ce que c'est déjà le temps de la fiction aux États-Unis, justement, pour ce qui est de ce conflit, de cette guerre en Irak? Comment est-ce que les États-Unis ont pris en charge, comment la fiction, pardon, a pris en charge ce conflit?
I think the wave of fiction about Iraq is just starting.
Je crois que cette vague de fiction à laquelle on assiste s'agissant de l'Irak ne fait que commencer. Il y a déjà eu un certain nombre de publications tout à fait remarquables sur l'Irak.
Ben Fountain,
Ben Fountain et son ouvrage sur l'Irak, c'est l'un de mes romans préférés. Il y a certes les propos des anciens combattants, mais de plus en plus, on va pouvoir lire la littérature des Irakiens.
And I think that there's a lot of processing and thought that needs to be done.
Et je crois que sur l'Irak, nous avons encore un gros effort de digestion à faire. Et c'est important que les voix qui s'expriment soient nombreuses.
Phil Clay, vous citez le poète Tom Slay comme tuteur, vous désignez comme votre mentor l'écrivain irlandais Colm McCann, qui est l'auteur de « Et que le vaste monde poursuive sa course folle ». Qu'est-ce que vous lui devez ?
Colm is a tremendously generous writer.
Colm est un écrivain extraordinairement généreux.
He is also a brilliant writer in many ways.
And when he was reading my brilliant et lorsqu'il a lu mes nouvelles, il s'est beaucoup intéressé au rythme que je donne à la langue.
The way that I was trying to work with
il s'est intéressé à la façon dont je maniais le jargon militaire, les sigles, les éléments de langage militaire qui sont les différents des du langage civil.
He also one of the things that was I talked earlier about the sense that I'm a veteran.
Je vous ai parlé du fait que moi je suis un ancien combattant et du fait que certains anciens combattants se croient plus légitimes que d'autres pour parler de la guerre. Eh bien, Colm McCann, c'est un civil qui me disait que ce que j'exprimais n'était pas logique et n'avait pas de sens. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a obligé à puiser encore plus profondément en moi.
Dans l'avant-dernière nouvelle, Phil Clay, qui s'appelle « À moins que ce ne soit une plaie aspirante au thorax », le narrateur, revenu à la vie civile, demande à un collègue capitaine dans le corps des Marines « L'Irak, qu'est-ce que tu penses ?» On a gagné, ce à quoi le capitaine répond, en hésitant un petit peu, on s'est pas mal débrouillé. Vous, qu'est-ce que vous diriez, Phil Clay?
There's chaos in Iraq.
C'est le chaos qui règne en Irak.
There's a tremendous amount of suffering.
Il y a des souffrances énormes.
We unleashed a tremendous amount of chaos.
Nous avons provoqué énormément de chaos.
I will be forever, I mean, I it causes me grief and rage.
J'éprouve une peine et une colère immense.
You know, there were particularly in the early stages of Iraq, there was tremendous arrogance.
Particulièrement au début de la guerre en Irak, les Américains ont fait montre d'une très grande arrogance. Il y a eu des efforts individuels qui étaient particulièrement nobles. Certains ont fait de leur mieux pour venir en aide.
And there were people who were tremendously irresponsible.
D'autres se sont montrés particulièrement irresponsables.
I think the record of what happened in Iraq is pretty obvious.
Je crois que le bilan est assez évident, il parle de lui-même.
La réception critique de votre livre a été phénoménale. Qu'est-ce qu'il en a été de sa réception politique, Philippe Clay?
Well, the book. I've had the book read in very different ways.
Il y a eu de nombreuses interprétations de mes nouvelles.
Depending on people's politics, I didn't write the book.
L'interprétation dépend du bord politique du lecteur.
To
je n'ai pas écrit ces nouvelles.
You know, to make a policy argument about whether we should have gone to Iraq.
Dire si oui ou non on a bien fait d'aller en Irak.
You know,
ce n'est pas
whether
un
Donald Rumsfeld was a
propos
good
politique que je tiens. Je ne m'avance pas pour dire si Donald Rumsfeld était un bon ministre de la Défense ou non.
He wasn't, but that's not why I wrote the book.
Bon, entre nous, il ne l'était pas, mais ce n'est pas le propos du livre.
I wanted to get at the experiences of people and how
je voulais traiter des expériences des gens. Et je voulais expliquer les conséquences des politiques, non pas les conséquences simplement de la décision qui a consisté à se lancer dans cette guerre, mais je voulais également parler des conséquences de toutes les décisions qui ont été prises pendant les différentes années, au cours des différentes étapes de la guerre, pour expliquer comment ces décisions ont créé ces environnements confinés dans lesquels les militaires doivent opérer des choix et vivre avec ces choix.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Phil Clay.
Stick up, stick up, and I'm shooting niggas quick if you hiccup. Don't let me throw my clip up in your back and headpiece. The opposite of peace, send him on Duke Reef. You're talking to the robbery expert. Step into your wake with your blood on my shirt. Don't be a jerk and get smoked over being resistant. Cause when I lick shots, the shits is persistent. Huh. Goodness gracious, the papers, where the cash at? Where the stash at?
Identification de ce son, Phil Clay, pourquoi l'avoir choisi?
Well, I love rap.
J'adore le rap.
I think, you know, if you're an American writer, rap is the musical form that's most interested in the rhythm.
Tout écrivain américain, on se rend compte que c'est le rap qui s'intéresse le plus au rythme et à la prosodie de la langue américaine.
On écoute.
What is it?
That's Biggie Smalls.
C'est Biggie Smalls, Gimme the Loop.
Notorious B.I.G.
When I first listened to Notorious Big.
You know, I was
la première fois que j'ai entendu ça, je devais avoir 15 ou 16 ans.
I heard the wordplay, the
et j'ai compris les jeux de mots, les astuces, cette frime, cette agressivité.
But when I listened to it,
mais
now,
lorsque j'écoute ce morceau aujourd'hui,
how the story
je me rends compte un petit peu comment l'histoire évolue. Il y a deux personnages séparés par la voix. Voilà deux personnages qui se vantent, mais leur frime est totalement creuse. Et en fait, tout ce que dit le personnage, c'est totalement faux. Et puis ça l'amène sur le chemin de la mort. Et on crée un monde où ils pensent qu'ils sont les héros de leur propre histoire, mais en fait, c'est une histoire triste et ô combien pitoyable.
And it's that aspect of it was always there when I listened to it as a much younger.
Cet aspect de cette chanson, de ce morceau, eh bien, je m'en rends compte maintenant, je ne m'en rendais pas compte quand j'avais 15 ou 16 ans.
Thomas Brunec, je vous ai vu prendre des notes pendant ces quelques moments d'entretien. Qu'est-ce qui vous a marqué, en fait?
Non, je suis évidemment marqué par ce témoignage et ce livre parce qu'il me ramène à beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et j'avais envie de poser une question à Phil Clay, de lui demander s'il comptait, s'il espérait pouvoir un jour retourner en Irak.
Yes, I would.
Oui, je pourrais retourner en Irak.
Like many veterans,
comme de nombreux anciens combattants,
I remain very invested in what happens there.
Je reste très investi dans ce qui se passe en Irak.
And I'd like to go back.
Et je voudrais bien retourner là-bas.
Pourquoi vous voulez lui poser cette question ?
Parce que parmi tous les vétérans du Vietnam que j'ai rencontrés, certains étaient revenus là-bas en voyage. Certains étaient revenus vivre là-bas, s'installer là-bas. D'autres n'étaient jamais revenus, mais auraient voulu le faire. Et j'ai le sentiment que, je ne sais pas si c'est... Évidemment, chacun a son explication personnelle à cette démarche, mais j'ai le sentiment que c'est cette problématique de revenir, en fait, dans le pays où on a combattu l'ennemi et est assez fréquente en fait chez les vétérans, sans vouloir généraliser évidemment, mais
you'd like to see what the place would be if
eh bien on veut voir ce à quoi ressemblerait le pays où on a combattu si il y avait la paix. L'expérience qu'on a de ce pays est si limitée. L'expérience que l'on a des gens que l'on a rencontrés est si restreinte. Et on se demande quelle serait sa relation au pays si on pouvait déambuler dans une rue, s'asseoir à la terrasse d'un café et discuter avec les gens.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Bercy avec vous, Thomas Bronek, journaliste, documentariste, écrivain. Vous publiez Les Initiés, votre deuxième roman policier dans la collection Série Noire de Gallimard, qui fête, hasard ou coïncidence, ses 70 ans. L'histoire, en quelques mots, nous sommes sous un gouvernement de gauche. La ministre est une femme solide, Isabelle Colson, qui entend respecter les engagements de la majorité. Mais deux événements vont précipiter l'intrigue, Lucille.
Une jeune inspectrice se suicide en sautant du toit du ministère de la Finance, donc de l'économie, et dans le même temps, une banque, le Crédit Parisien, dirigé par le redoutable Antoine Fertel, menace de faire faillite. Se pose alors la question, faut-il que l'État se charge à nouveau de sauver une banque ? Dès lors, toute une mécanique d'intrigue se met en place entre différents protagonistes prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Il y a un jeune directeur de cabinet, un directeur du Trésor qui est coincé entre la ministre et la banque, le président de la République lui-même, sans oublier deux fantômes, ceux de deux jeunes inspectrices qui hantent l'histoire de Bercy.
Alors ce roman est le fruit d'une longue fréquentation de votre part du ministère de l'économie et des finances. Vous aviez déjà publié en 2011 une enquête avec Laurent Fargue, Bercy au cœur du pouvoir, sur les arcanes du ministère des finances. Il y avait eu aussi un documentaire pour France 5 sur le même sujet. Qu'est-ce que la fiction, et la fiction policière en particulier, pouvait dire de plus ?
C'est une question que je me suis beaucoup posée.
Donc vous avez un élément de réponse, ou quelques-uns alors, Thomas Bronek.
Dès le début en fait, de l'enquête journalistique que j'ai faite avec Laurent Fargue sur le ministère des Finances, on a rencontré énormément de personnes, 150 personnes pour réaliser cette enquête. Donc évidemment, vous imaginez une galerie de personnages, d'histoires et de caractères... tous plus intéressants les uns que les autres. Et donc, dès le début, j'ai eu envie d'en faire une fiction parce que je trouvais que le milieu dans lequel on évoluait était vraiment propice à aller plus loin, en fait, que la simple description journalistique des rapports de pouvoir. Et, moi, dans l'âme, j'aime raconter des histoires, hein, que ce soit en journalisme ou en romancier. La seule différence, c'est que il y en a qui sont vrais et d'autres inventés, mais il y avait beaucoup d'histoires qui me venaient dans la tête au moment de cette enquête. Et puis ça permet aussi de mettre le doigt sur des choses qui n'existent pas, mais qui que l'on peut mettre en lumière de façon métaphorique.
Par exemple, qu'est-ce qui n'existerait pas que...
Par exemple, dans la réalité, l'administration du Trésor est très proche du milieu bancaire. Mmh. Il y a beaucoup de gens du Trésor qui vont travailler dans les banques une fois que leur carrière a plafonné. Il y a des gens qui travaillent dans les banques qui reviennent dans le milieu, que ce soit dans l'administration ou dans le milieu politique, dans les cabinets et même qui s'engagent en politique. On en voit encore beaucoup aujourd'hui. Mais cette proximité, c'est une proximité un peu évanescente, elle est difficile à qualifier. Les gens qu'on interrogeait là-dessus nous disaient « mais c'est normal, puisque les banquiers connaissent le mieux leur métier, et nous, on a besoin de leur expertise, et nous, on a une expertise qu'on leur apporte aussi. » Donc tout ça participe finalement à une émulation qui œuvre pour le bien commun. Et dans cette émulation pour le bien commun, il y a aussi quand même des intérêts personnels qui se jouent. Et moi, c'est à ce niveau de l'individu que j'ai voulu placer aussi mes personnages dans l'intrigue.
Lucille.
Lorsque vous enquêtiez en tant que journaliste à Bercy, est-ce que vous aviez accès à tout ou est-ce que vous aviez l'impression qu'on vous cachait des choses ?
C'était un milieu très difficile à investiguer, le milieu de l'administration de Bercy. Parce que autant les politiques, les députés, les ministres, éventuellement les membres du cabinet sont relativement faciles à approcher, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils se confient facilement, autant les gens de l'administration sont vraiment des hommes de l'ombre, quoi. Et donc il a fallu procéder un peu par cercle concentrique pour arriver à s'approcher de ces hommes et ces femmes qui en réalité ont une influence très forte sur la définition de la politique économique qui est menée sur le long cours en France.
Alors à l'époque de vos enquêtes, le gouvernement était de droite. Dans le roman, il est de gauche. Qu'est-ce que ça vous permet d'un point de vue narratif de passer d'un bord à l'autre, Thomas Brunec ?
L'intrigue commence, enfin en tout cas sous un gouvernement de gauche, mais l'origine c'est quand même la crise de 2008 qui... dans le livre aussi, a eu lieu sous un gouvernement de droite. Donc, il y a eu une alternance, comme il y a pu y en avoir une en réalité. Et l'idée, c'était aussi de montrer qu'il existe une certaine forme de continuité dans la politique économique qui est menée, par-delà les alternances politiques. En fait, dans le roman, il y a un personnage qui dit, voilà, en cas d'alternance, on peut faire bouger le paquebot le cap du paquebot de 10 à 20 degrés. Mais si on essaye plus, ça va coincer et on va revenir dans le droit fil. Donc, je trouvais que c'était une image qui était assez juste.
Lucille.
Ce qui frappe à la lecture du roman, c'est la grande abondance de dialogues et surtout le fait que tout le discours un peu informatif sur Bercy, c'est-à-dire son fonctionnement propre, son histoire, tout ça c'est inclus dans les dialogues. Est-ce que c'est un dispositif que vous aviez en tête dès le départ ?
Non. Non.
Vous ne pensez pas que ça parlerait autant ?
Non, à vrai dire, je le réalise même maintenant quasiment que vous le dites. Parce que moi, je n'ai pas eu cette impression-là vraiment. Il y a des éléments un peu de pédagogie qui sont aussi distillés dans le texte. Mais c'est vrai que, en fait, les personnages, c'est une forme de justification en fait, qu'ils apportent lors de leur conversation sur le sens de ce qu'ils font.
Presque tous les personnages ont une histoire commune qui commence bien avant Bercy. C'est ça qui est intéressant, c'est l'ENA. Il y a même des familles entières d'Énards, comme celle de Nathalie Renaudier, l'amie disparue du héros. Est-ce que c'est une institution que vous pourriez explorer sur un plan de la fiction ou sur le plan du documentaire ?
Et l'ENA, c'est vrai que c'est passionnant d'un point de vue journalistique. Il y a eu quelques enquêtes déjà sur les promotions de l'ENA. Mais...
Et une fiction aussi télévisée ?
Et une fiction télévisée, absolument. Donc c'est un univers qui est fascinant, parce que là, on est vraiment dans l'aristocratie républicaine, quoi. Comme dans toute aristocratie, il y a des lignées et des gens qui font l'ENA de père en fils, de mère en fille. qu'on retrouve comme ça au fil de l'histoire de France, à des postes plus ou moins élevés, mais qui sont toujours au service de l'État.
Lucille ?
Il y a un des personnages de votre roman qui souffre d'une maladie psychiatrique que vous diagnostiquez vous-même dans une note à la fin, qui est le syndrome de Diogène. C'est en fait l'incapacité à jeter la moindre chose, donc les personnes s'ensevelissent elles-mêmes sous les objets et les déchets. Quel serait le lien entre le fonctionnement général de la finance et ce syndrome-là ? J'imagine que vous ne l'avez pas choisi par hasard.
C'est Bernard Maris, l'économiste, qui avait travaillé là-dessus sur la psychanalyse du capitalisme. Et je trouvais que c'était... intéressant de symboliser en fait l'accumulation aussi du capitalisme par l'accumulation de déchets, sans y voir forcément une lecture idéologique de ce qu'est le capitalisme. Mais c'est vrai qu'il y a le point commun, en fait, c'est ce processus d'accumulation jusqu'à l'infini quasiment, quoi.
Lucille.
Je reviens sur la question idéologique. Il y a une vraie tradition d'écrivains de polar de gauche et d'extrême gauche. Il y a eu Manchette, Jean-Bernard Puy. Est-ce que pour vous, la fiction vous a permis justement de révéler un point de vue un peu plus critique sur Bercy que vous ne pouviez pas révéler dans vos travaux journalistiques,
Thomas? Encore une fois, ça permet de montrer des choses de façon métaphorique, donc plus appuyée que dans la réalité. Mais moi, je réfute l'idée que j'ai écrit un roman engagé ou de gauche. Je me situe pas du tout dans cette tradition du roman engagé. C'est pas un roman politique au sens où il défend une vision de la société. C'est un roman sur la politique, sur ce qu'est la politique aujourd'hui. Et donc c'est plus une description de ce qu'est la politique aujourd'hui qu'une dénonciation, quoi. Après, libre à chacun de se forger son opinion et de penser ce qu'il veut là-dessus. Mais je veux absolument pas guider le jugement du lecteur là-dedans. D'ailleurs, je ne juge pas du tout mes personnages. Vous voyez qu'il n'y a pas des bons, des méchants. Ils ont tous quand même une part d'ombre assez forte, quoi. Je dirais presque qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre.
La condamnation est presque totale. Une dernière question, est-ce que vous connaissiez Bernard Maris? Est-ce que vous l'avez rencontré lors des enquêtes que vous aviez menées?
J'avais rencontré Bernard Maris pour son livre sur la psychanalyse du capitalisme. Et on s'était vu assez longuement à ce moment-là. Et c'est un livre qui m'avait vraiment beaucoup intéressé, parce qu'il avait une vision de l'économie qui était pas du tout traditionnelle.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et vous avez choisi celui-ci.
Chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi, tình yêu xứ này.
Identification de ce son et ce qu'il représente pour vous.
C'est un extrait du film À la verticale de l'été. C'est une chanson de Chin Kung Soon, qui est un chanteur vietnamien très très célèbre. C'est une scène du film que je suis allé voir en salle au moment où il est sorti, au début des années 2000, et qui m'a produit une impression vraiment étrange. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce film, j'ai eu la certitude que j'irais vivre au Vietnam et que c'était un peu... J'avais presque l'impression que c'était chez moi. Et donc c'est un film qui, du coup, a beaucoup influencé ma vie, puisque effectivement, je suis allé vivre au Vietnam un petit peu plus tard. Et je pense que ce film y a certainement contribué.
Le rendez-vous, la session.
Et pour terminer, eh bien, on se quitte en musique avec les sessions pop ce soir. Hippolyte Babilote.
Session 5 des poètes disparus New Wave avec le groupe de dandy Feu Chatterton, jeune groupe de pop récompensé notamment au concours Jeune Talent à Rock Lab. Le nom étrange de Feu Chatterton fait référence au tableau du peintre Henry Wallis, La mort de Chatterton, qui représente la mort du poète romantique anglais suicidé à 17 ans. Le groupe se distingue par des mélodies à part entre psychédélisme, lyrisme baroque, musique électronique, des textes précieux et mélancoliques. Une ambiance très 19e siècle qui évoque le spleen, les amours perdus, les rencontres, les départs et des voyages sans destination. Bref, une quête de sens dans un monde qui ne se comprend plus. Ce soir, on écoute Il est parti, un titre enregistré lors de leur passage au studio 108 de la Maison de la Radio le 25 novembre dernier. Ils sont 5, Arthur, une voix et un look de dandy pour le moustachu chanteur, Clément est au piano, Sébastien à la guitare, Raphaël à la batterie et Antoine à la basse.
On les écoute.
Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti, 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste sur les plages asiatiques où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvent la nuit. Où l'on se lève à l'aube. Nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés. C'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courrier. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti! C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier. On a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Déjà moins bavard que lorsque je l'ai connu 8 ans plus tôt. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de vieux démons. Les siens lui parlaient, je crois, de filiation et d'arbres généalogiques. À celui-là aussi on coupe les branches qui font ombrage et les feuilles meurent à l'automne. Alors j'ai compris ce silence et je le partageais. Je me suis aussi dit que j'étais sans doute moi-même moins fougueux, moins dispendieux qu'en notre prime adolescence. Lors, on découvrait comme tout le monde le péril de toute véritable entreprise de séduction et la saveur des lèvres maladroites et conquises. On apprenait aussi par cœur les mystères âpres et charnus du con féminin qu'on touche d'abord avec les doigts. Et surtout, surtout, l'insolent et naïf sentiment de liberté, les poumons amples, quand on prend la route du voyage pour la première fois. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube.
Feu Chatterton, c'était Il est parti. Ils seront en concert le 27 mars à Puteaux, le 5 avril à Lille-sur-Tarn, le 9 à Amiens, le 10 à Auxerre et le 11 à Magny-le-Hongre. Toutes les dates de leurs concerts sont sur le site de l'émission et leur EP a paru chez Sony.
Je n'avais pas de récit suffisamment étayé pour expliquer le sens de la guerre. J'ai écrit pendant 4 ans et demi et puis dans ma tête, bien, la confusion n'a fait que croître et embellir. On a tiré sur des chiens.
Merci à nos invités. Phil Clay, fin de mission, c'est aux éditions Gallmeister. Thomas Bronek, Les Initiés, apparu aux éditions Série Noire Gallimard. Ça, c'était pour aujourd'hui et demain. Demain, il faudra attendre lundi. Lundi, ce sera une émission rock et jonglage avec Mademoiselle K et Fia Ménard. La désannonce, Laurent Goumard.
Et à votre service, Hippolyte, c'était le rendez-vous de Laurent Goumard. Oui, on dit chef. Une émission préparée par Manu Farine, Lucille Como, Aïssette Wendoy et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture et supplément week-end, Zoé Sfez et Benoît Lagane. À la prise de son, Juliette Delperrou. À la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter. Une grande famille qui se sépare aujourd'hui du plus bressonien de ses stagiaires, Hippolyte Babilotte, que je remercie pour 6 mois. 6 mois passés à nos côtés, le bureau devra faire le deuil de ses fulgurances, de son flegme énigmatique qui masque une réelle efficacité. Et il va nous manquer.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien.
Et je vous laisse tout de suite avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon week-end à tous.